Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Léo Lemordant, et non Théo, l'un des cofondateurs, puisque vous êtes quatre, d'Enerfip, la plateforme de financement participatif dédiée à la transition énergétique. Tu es basé à Montpellier en plus.
Exactement.
Et tu es venu spécialement pour moi.
Exactement. Alors bonjour à tous.
Oula, alors est-ce que empreinte carboniquement parlant, je t'ai fait...
Non, ça va, parce que j'ai pris mon billet pour venir à l'empreinte et ensuite j'ai pris des billets tôt le matin et tard le soir pour caler d'autres rendez-vous.
Super, parce que sinon j'aurais culpabilisé et je me serais dit comment je vais compenser ton empreinte carbone.
Mais j'ai découvert quelque chose à cette occasion, c'est que l'empreinte carbone d'un voyage en première ou dans seconde est la même, alors qu'il n'y a pas le même nombre de voyageurs dans un wagon de première ou de seconde. Et je me suis dit, ça c'est pas bien, il devrait adapter au prorata du nombre de sièges de wagon, la place et donc l'empreinte carbone du voyage.
C'est intéressant. Bah, écoute, je vais demander à la SNCF dans l'empreinte, prochain épisode. Mais là, on va parler d'Enerfip.
Bon, on va parler d'Enerfip.
Raconte-moi tout, de A à Z.
Donc, comme tu l'as dit, c'est une plateforme de financement participatif spécialisée dans les énergies renouvelables et les projets de transition énergétique. Donc ça veut dire qu'on va proposer aux citoyens d'investir son épargne à partir de 10 euros, c'est ouvert vraiment à tout à chacun, dans des projets solaires, éoliens, ça peut être éolien sur terre ou en mer, ça peut être des projets d'efficacité énergétique, ça c'est-à-dire remplacer des équipements industriels pour aller vers plus de sobriété énergétique, mais de continuer à produire des équipements dont on a besoin, quoi, par exemple des aciéries, des choses comme ça. Et aussi des projets, par exemple, de méthanisation, où là, l'objectif, c'est de recycler les déchets, les résidus agricoles pour en faire du gaz de ville et l'utiliser dans nos cuisines plutôt que ce gaz soit réémis spontanément dans l'atmosphère et qu'il fasse des émissions de... Enfin, qu'il fasse du gaz à effet de serre, quoi.
Et comment tu as sélectionné les solutions dans lesquelles les personnes peuvent investir?
Alors, en fait, donc nous, les quatre fondateurs, on est issus de ce monde des énergies renouvelables. Moi, je suis ingénieur en hydroélectricité et Julien, lui, il a développé pas mal de centrales solaires dans sa carrière, environ 200, et dont la première centrale au sol en France en 2008. Et alors pour le compte de grands groupes, hein, il n'était pas tout seul dans son coin, mais il en a aussi quelques-unes à lui. Hein. et puis les deux autres associés, Sébastien et Edouard, ils sont plus dans la finance de projets d'énergie. Et donc, du coup, on a eu cette approche de venir par le monde des projets plutôt que le monde de la finance et plutôt que le monde de la com ou du marketing, quoi. Donc, on a vraiment une approche projet, une bonne connaissance, un bon réseau dans ce secteur-là. Et on va sélectionner les projets auprès des porteurs de projets les mieux qualifiés, les meilleurs, quoi. Et ne pas considérer tous les projets qui viennent de sociétés dont on a soit pas confiance, soit voilà. Et puis on va pas financer des projets du particulier, par exemple le panneau solaire de la petite maison à côté de chez soi. Non, c'est quand même des projets de grande taille avec c'est quand même des professionnels, quoi, des spécialistes du secteur. Alors ça peut être aussi des petites boîtes, hein. Même des petites boîtes avec quelques salariés qui font quelques millions d'euros ou centaines de milliers de chiffres d'affaires. Et puis ça peut être des grands groupes du CAC 40 et donc notamment leur filiale dédiée au développement de ce type de projet. Donc par exemple des filiales d'EDF ou d'Engie. Voilà, on travaille aussi avec tous les types d'intermédiaires, tous les types de sociétés. Et ensuite il y a la partie investisseurs. Et là notre objectif c'est d'ouvrir du coup ces projets-là, leur financement au maximum du public. Pour trois raisons. C'est un moyen enfin, le financement de projets d'infrastructures comme ça, c'est un monde qui était réservé à l'élite financière, en fait, aux fonds d'investissement.
De pouvoir avoir le choix, en fait.
Déjà, de voir l'opportunité de placer son argent dans des projets comme ça.
C'est vrai.
Parce que c'est beaucoup d'argent d'un coup et qu'il faut quand même connaître le secteur, tout ça, tout ça. Et donc, nous, notre idée, c'était d'ouvrir ce champ-là au quidam. Ça, c'était la première idée, de faire un genre de circuit court de l'épargne, quoi. Et puis, deuxième idée, c'était de résoudre quelques problèmes des porteurs de projets. Puisque nous, on avait dans nos carrières respectives rencontré certains handicaps, alors ça soit au niveau du financement en lui-même. Donc, en fait, alors juste un petit aparté sur comment ça se passe. Quand on dit financement, il y a deux types de financement. Il y a le financement bancaire, c'est-à-dire que la banque va apporter des fonds pour réaliser le projet, mais le porteur de projet va apporter des fonds propres. Les fonds propres, c'est un peu comme l'apport perso quand on achète un appart. C'est exactement pareil. Il faut se mouiller un petit peu soi-même pour que la banque apporte les fonds. Et donc, nous, on vient en complément des fonds propres, de l'apport perso. Et donc, du coup, sur cet aspect-là, ben, des fois, les petits porteurs de projets, notamment, ils n'ont pas forcément suffisamment de fonds pour débloquer le financement de la banque. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont 10 projets en parallèle qui développent. Une fois qu'ils ont les autorisations, que tout est prêt, la construction est prête à démarrer, eh ben, s'ils ne peuvent pas construire les 10 parce qu'ils n'ont pas les fonds propres, ils en vendent 4 et puis ils gardent les 6 autres. Mais avec Enerfip, ils peuvent en garder peut-être 8. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième problématique qu'on souhaitait résoudre. Troisième problématique, c'est notamment dans l'éolien ou la méthanisation, il y a quand même des a priori, des...
Il y en a pas mal. Hein.
Voilà, les riverains, ils ne sont pas toujours chauds. Et donc, il y a des...
Même en termes d'implantation des infrastructures, les éoliennes, c'est
exactement.
Quand même...
Exactement. Ou en fait, n'importe quelle...
D'empreinte, on n'est même pas sûr qu'en matière d'empreinte carbone, elle soit si...
Bon, si, quand même.
Oui, non, mais la production, mais même le fait de les construire, etc.
Bon, si, quand même.
Si, quand même.
Oui, si, si. Ça, c'est... Enfin,
la logistique, en fait, on a toujours des questions. Je pense que tout à chacun se pose toujours des questions en termes de...
Oui, parce qu'on voit dans les médias ou quoi, des gens qui racontent un peu n'importe quoi. Et aussi, souvent, des trucs qui datent des années 2000 et qui sont complètement obsolètes, en fait. Ça, c'est très vrai, notamment dans le solaire, où quand on fabriquait des panneaux solaires dans les années 2000 avec les rendements de l'époque, ou quand on en fabrique aujourd'hui avec les rendements d'aujourd'hui, l'empreinte carbone n'est pas du tout pareille. Aujourd'hui, un panneau solaire, il est rentabilisé en 2 ans. Alors, dans l'éolien, on a aussi pas mal de... On a fait des énormes progrès, en fait, en très peu de temps, en 10-15 ans. Et enfin, il n'y a aucun doute que l'éolien, ça émet très peu de carbone. Là où les gens confondent un peu les choses, c'est que si on compare aux émissions de carbone du nucléaire, par exemple, le gain, il n'est pas significatif. Mais l'éolien ne vient pas en remplacement du nucléaire. Ça, c'est une fausse idée. Qui est beaucoup répandu, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En ce moment, en France, on a fermé les centrales à charbon, définitivement. Là, la dernière a été fermée récemment. Alors, elle fonctionne à, je sais plus combien, 20% de capacité. Ça, on a pu le faire parce qu'on a développé des nouvelles capacités de production d'électricité. Ces nouvelles capacités sont les énergies renouvelables, dont l'éolien. Donc, en fait, bon, on peut voir les choses de plein de façons différentes et donner des arguments comme ça un peu à brûle pour point, mais la réalité, c'est que on a besoin de l'éolien et on a besoin de toutes les énergies possibles, notamment dans une dimension de fiabilité de l'approvisionnement et aussi
de diversité, peut-être.
De diversité et aussi d'indépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur.
L'économie est liée à l'écologie.
C'est un large sujet, mais ce que je voulais dire tout à l'heure sur le troisième point qu'on cherche à améliorer, c'est que n'importe quel projet d'infrastructure, que ça soit dans l'énergie ou un pont ou une autoroute encore pire ou l'aménagement d'un nouveau quartier, n'importe quelle infrastructure qui modifie l'espace physique, il va y avoir des discussions avec les gens qui sont impactés en local et y a ce qu'on appelle la concertation publique qui s'organise et souvent on a du mal à faire venir les gens en réunion publique pour qu'ils partagent leur opinion s'ils en ont une. Et ceux qui viennent, c'est vraiment ceux qui sont contre.
Ils en ont toujours une.
Mais ils sont mais c'est surtout les contre.
Et donc après, toujours,
voilà. Et donc du coup,
les
concertations publiques se passent plus ou moins bien. Et souvent, la question qui revient, c'est ok, on comprend l'intérêt du projet, machin. Mais nous, qu'est-ce qu'on y gagne, nous? La réponse classique, c'est vous allez bénéficier des retombées fiscales. Et donc, la commune va avoir beaucoup plus de moyens pour développer le stade, des tas de choses, quoi. Mais les gens aiment bien savoir qu'ils vont en bénéficier, eux. Et donc, souvent, revient de plus en plus la proposition de dire « si vous faisiez du financement participatif, on pourrait avoir les fruits de ces projets parce que vous utilisez les ressources communes et donc c'est normal qu'on en bénéficie, nous aussi ». Et donc, notamment dans l'éolien, ça devient vraiment une figure imposée, quoi, le financement participatif. Non pas que les porteurs de projets le font spontanément, c'est que ça remonte soit de la population, soit des élus. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est un peu la tarte à la crème. Il faut y passer en fin de concertation publique, pas au début parce que c'est inadapté, mais plutôt avant que le projet se fasse, on fait un petit financement participatif. Et comme ça, ceux qui veulent participer, ils peuvent placer leur sous dans un projet qui a un risque limité avec un rendement assez attractif parce que c'est quand même une opération de promotion du projet, hein, concrètement. Et voilà. Donc ça, c'est aussi une des choses qu'on voulait mettre en avant, c'est permettre d'améliorer l'acceptabilité des projets.
Et vous avez fondé ça tous les quatre en 2014.
C'est bien ça. C'est ça.
Mais donc c'est quand même, c'est pas précurseur, mais c'est vrai un peu. En vrai, un peu, c'est pour ça.
Non, mais
ça s'est vraiment accéléré ces dernières années.
Ouais. Alors, tu sais, on voit souvent dans les pitchs des entrepreneurs qu'ils ont une vision et tout machin. Et on avait un peu cette vision-là de dire.
Comment vous l'avez eu tous les quatre? Parce que vous étiez.
Je ne sais pas si on va avoir le temps. Hein.
Raconte brièvement comment. Vous étiez des amis, vous connaissiez bien.
Oui, alors on se connaissait. Moi, je connaissais Sébastien parce qu'on travaillait dans la même société auparavant, Société de développement de projets hydro. Et ensuite, j'ai démissionné, je suis parti sur un autre truc et là, j'ai rencontré Julien dans le sud. Et après, je suis parti à New York. Sébastien est parti à Singapour, Julien est resté à Montpellier. Et 2 ans plus tard, j'ai eu l'idée d'Enerfip. Mais bon, ce n'était pas aussi abouti qu'aujourd'hui, bien sûr. Hein. C'était un peu un petit rêve de se dire... Moi j'aime bien l'hydraulique. J'aime bien les barrages, et les petits barrages notamment, où il y a des petits moulins dans des petites rivières pictoresques. Et j'aimerais bien en avoir un jour pour l'exploiter moi-même. Mais c'est inaccessible parce que c'est trop cher. Je me dis, on n'a qu'à l'acheter à plein. Quoi. Et puis, comme ça, on pourrait aller à tour de rôle se baigner dans le petit lac de rivière formé par le barrage pendant l'été, quoi, avec la famille. Bon, mais rêve inaccessible et puis compliqué. Comment trouver les gens pour participer? Et puis, j'ai des copains à cette période, vers 2012-2013, qui montaient, eux, leur start-up dans les objets connectés. Et ils m'avaient sollicité pour leur petit financement participatif pour faire un prototype sur KissKissBankBank ou un truc comme ça. Et donc, du coup, j'avais participé. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, en fait, pour financer mon barrage. On va faire ensemble une levée de fonds pour acheter un barrage. Donc ça, c'était un peu le pitch de base d'Enerfip. Même si aujourd'hui, ce n'est pas vraiment pour acheter les
actifs,
mais pour participer au financement, etc. Donc l'idée a un peu évolué. Mais l'idée, c'était de se dire, les infrastructures, c'est beaucoup d'argent. Et par contre, si on met ensemble des centaines ou des milliers de gens, on va pouvoir le faire.
Collectivement, le pouvoir du collectif.
Voilà.
Et quels sont les prochains challenges alors pour Enerfip?
Alors, on est déjà 20 salariés là.
Ah, 20, ça grossit d'un coup ou pas?
Non, c'est progressivement. Oui. On est passé de 5, puis 10, puis 15, puis 20. En gros, quoi, tous les 2 ans, on augmente de 5. Les prochains challenges, c'est justement de réussir à transformer l'organisation de la société un petit peu pour bien organiser tout ça, bien huiler... le fonctionnement, parce que quand on croit comme ça, c'est quand même compliqué. Donc ça, c'est un peu la vision de dirigeant. Mais après, en fait, on a un balancier permanent entre avoir trop de projets à financer et pas assez d'investisseurs et trop d'investisseurs par rapport au nombre de projets. Donc c'est pendant une période, c'est l'un, pendant une période, c'est l'autre. Et aujourd'hui, on est dans la période où on a de beaucoup de projets et c'est venu d'un coup, en fait. Et donc, du coup, on se retrouve avec des volumes énormes à devoir gérer et on n'a pas forcément tout le temps les investisseurs à mettre en face, les épargnants à mettre en face pour finir les collègues. Donc, il faut aller au charbon quoi, pour communiquer et faire savoir que Enerfip, ça existe et qu'on a un produit attractif, etc.
Et tous les quatre, est-ce que vous êtes des éco-citoyens, toi déjà? Ou est-ce que finalement, Bon, bah, tu le fais un petit peu par business. Tu m'as raconté pourquoi tu avais eu cette ouais. idée, mais est-ce qu'au quotidien, tu limites ta consommation de viande, enfin, ou pas spécialement?
Oui. Alors oui. moi, je suis très, très énergie, donc j'ai commencé par ça. Mais oui, évidemment. Il y a quelque chose qu'on a fait, par exemple, récemment, juste pour prendre un exemple. On a déménagé, parce que notre bail arrivait à la fin. Donc, il fallait choisir des nouveaux locaux. Donc, c'était la meilleure période, puisque c'était en plein confinement, donc... C'est une très bonne période pour se mettre à dépenser de l'argent dans des loyers, quoi, puisque les salariés sont en télétravail. Bon, bref, en tout cas, il nous fallait des locaux. Et donc, il fallait choisir un lieu. On était en périphérie de Montpellier, donc une zone un peu commerciale, mais où il y a un quartier d'affaires. C'est un peu bizarre. Il y a à la fois Ikea et le siège du Crédit École qui se côtoient. Bon. Et bon, c'est un endroit où on peut venir en tram, mais c'est compliqué, c'est assez long, surtout s'il faut faire des changements et tout. Et donc, l'essentiel des salariés venaient en voiture. Et on s'est dit, c'est l'opportunité de faire en sorte que le moins de salariés possible prennent leur voiture pour venir au travail. Et donc, on a décidé de prendre des locaux sur la place de la Comédie, ce qui en plus est classe. Mais c'est surtout à côté de la gare principale, et ce qui permet d'être très bien irrigué en transport en commun. Et donc, aujourd'hui, personne vient en voiture au bureau sur les 20. Alors, on a beaucoup de gens qui télétravaillent. Même ceux qui habitent à Montpellier, comme ils font 2 ou 3 jours de télétravail, finalement, faire l'effort de prendre les transports, même si c'est parfois pas très simple, où il faut s'organiser, etc. C'est pas comme la voiture. Même si il y a pas de bouchon en train, a priori, ils font l'effort parce que finalement, c'est pas trop pesant. Tu
essayes en fait d'évangéliser ça. Mais bon, ça reste collectif, toi, au quotidien?
Oui, moi, au quotidien.
Toi aussi, quand même, tu fais attention.
Par exemple, moi, je prends jamais l'avion quand c'est pas possible. Sauf s'il faut aller, aller à Nantes de Montpellier, c'est un peu compliqué, par exemple.
Ouais.
Mais pour Paris, je vais toujours en train. Ou...
C'est bien. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose avant de te quitter de cet épisode? Est-ce que tu aimerais...
Oui, il y a un truc que je n'ai pas dit. En fait, une dimension importante d'Enerfip, mais qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'au-delà du circuit court de l'épargne, au-delà du financement, de l'acceptabilité territoriale et tout, en fait, il y a un vrai truc qu'on voulait faire avec Enerfip, c'est d'utiliser le côté argent, portefeuille, pour que les gens ils s'intéressent enfin à ce sujet de la transition énergétique. Et de pouvoir, grâce à ce qu'on propose, qui est assez intéressant, où les gens ils se disent « Ah ouais, d'accord, et du coup, comment ça marche ?» on va pouvoir faire passer plein de messages et faire plein de pédagogie sur toutes les questions qu'on a évoquées rapidement sur l'éolien, mais ça suscite des débats avec les investisseurs. Alors, ce n'est pas tous, évidemment.
C'est vrai que quand on met sa main au portefeuille, souvent, c'est comme quand on va voir le psy.
On a envie de savoir.
Souvent, mais en fait, c'est vrai. C'est pour ça que le psy coûte cher. C'est parce qu'on rentabilise après son achat. Donc, non, mais c'est vrai que les messages vont mieux passer puisqu'ils vont s'investir comme ils ont investi.
Et donc, c'est investir et s'investir dans la transition énergétique. Parce qu'il y a aussi un côté émotionnel de mettre son argent. On n'a pas envie de faire n'importe quoi. On s'intéresse, etc. Quoi. Et ça marche très bien. Alors après, effectivement, il y a tous les niveaux. Mais notre objectif chez Enerfip, ce n'est pas de s'adresser aux militants écolos, en fait. On a une volonté de s'adresser au plus large public.
En fait,
d'aller toucher des publics qui n'ont pas eu d'intérêt particulier pour le sujet parce qu'ils ont d'autres choses dans leur vie au quotidien. Et que grâce à ce truc, ou parce qu'il y a un parc éolien qui va se construire à 10 km de chez eux, ils vont être intrigués et ils vont se dire « Ah ouais, d'accord, ça marche comme ça. Ah oui, je comprends mieux. » Ils vont peut-être être mieux outillés derrière pour comprendre ce qui se passe et parce que ça les concerne au premier chef en tant que citoyen de cette terre. Quoi.
Super, parce que c'est aussi ce qu'on fait dans l'empreinte, essayer de rendre accessible au maximum ces sujets, donc ça colle parfaitement. Merci d'être venu jusqu'à moi et puis bon rendez-vous. Mais rentabilise bien ton empreinte carbone, s'il te plaît.
Ouais, voilà, j'arrive au bout quand même. Mais merci à toi de m'avoir invité et puis j'espère que ça a intéressé tout le monde.
J'espère aussi et j'en suis persuadée même. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.